France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy. Attentats, gilets jaunes, pandémie, les affres des années Hollande et Macron nous feront presque oublier le tourbillon que fut la présidence de Nicolas Sarkozy. Pourtant, de tous les locataires de l'Élysée, il fut celui qui incarna peut-être le plus brutalement un changement de ton et surtout ce qu'on appelle l'hyper-présidence, comme si la constitution de la 5e n'offrait pas assez de pouvoir comme ça au chef de l'État. Ce qui nous amène à juillet 2010. L'été est brûlant dans les couloirs de l'Élysée. Les ferments de la révolte sont en place. Une crise financière mondiale, une réforme des retraites à faire passer et d'innombrables affaires qui minent le pouvoir. Mais autour du président, on a trouvé la parade. Sécurité et identité. Assailli par des flux migratoires incontrôlables, traversé de zones de non-droit où seul règne les racailles et rongé par un islamisme rampant, la France, vue du ciel élyséen, apparaît comme un Far West où seul le shérif peut ramener l'ordre. Et en ce 30 juillet 2010, à Grenoble, Nicolas Sarkozy prononce son discours, un discours de la tension, en deux mots. En assimilant immigration et délinquance, il franchit le Rubicon et déclenche la polémique, voire le malaise. Notre invité aujourd'hui est le journaliste Louis Plenel, directeur de la publication de Mediapart. Il fut l'un de ceux qui ont réagi le plus vivement à ce discours de Grenoble. Il est l'auteur du livre « L'appel à la vigilance face à l'extrême droite » aux éditions La Découverte, un livre qui sort après-demain. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct. Récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Courme.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Grenoble vient de connaître une flambée de violence sans précédent qui a profondément choqué nos concitoyens. Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulées qui ont abouti à un échec de l'intégration.
Le quartier de l'Arlequin à la Villeneuve près de Grenoble en souffre quelque peu. Mais si elle connaît des problèmes analogues à ceux des autres grands ensembles, notamment la délinquance des jeunes, elle favorise aussi des moments nouveaux de discussion, de rencontres, d'échanges. La qualité des équipements intégrés à cet ensemble, école, bibliothèque, centre médical, télévision par câble, permet une vie très intense.
Avant de devenir l'arrière-plan du discours le plus controversé de Nicolas Sarkozy, le quartier de la Villeneuve, au sud de Grenoble, a représenté un espoir, oui. Avec son architecture moderne et son parc florissant, ce nouveau quartier est l'un des fleurons des constructions sociales utopistes des années 70. Pensé comme un espace de mixité sociale, ce quartier doit enclencher une dynamique vertueuse pour permettre à chacun de transcender sa condition. À la Villeneuve, on rêve de voir se mélanger toutes les couches qui composent la population grenobloise, les ingénieurs, les universitaires et les classes populaires, issues pour une grande part de l'immigration italienne et maghrébine.
Bien sûr qu'il y a des choses formidables à Grenoble et dans l'Isère, qui pourraient le contester. Et qu'il y a tellement de chercheurs, d'étudiants, de personnes de qualité. Mais en même temps, je dois voir la réalité telle qu'elle est. Ce qui s'est passé n'est pas acceptable.
À l'été 2010, la flamme de l'espoir qui anime le quartier de la Villeneuve de Grenoble est pour le moins vacillante. Les intellectuels et les bourgeois ont fui depuis longtemps cette utopie sociale et le quartier se paupérise d'année en année. La précarité s'est installée durablement, les trafics et la violence ont suivi. Karim Boudouda, 27 ans, a grandi ici. Dans les coursives de la cité de l'Arlequin, le principal bâtiment de la Villeneuve, il a couru, il a joué. Un divorce, un grand frère qui sombre dans la drogue, et voilà Karim empruntant la pente raide de la délinquance. De vols de petits commerçants au braquage de banque, de maisons de redressement, passage en prison, Karim Boudouda se rêve en homme libre, et ses faits d'armes lui offrent une certaine stature dans la rue. Mais devenu père d'une petite fille, il ne cesse de promettre qu'il va se ranger des voitures. Mais le 16 juillet 2010, il tente le coup de trop. Le Casino du Riage accueille comme tous les samedis soirs tous les flambeurs de la région. Un homme, entrepreneur du coin, est venu jouer gros, comme souvent. Mais depuis quelques jours, il se s'est suivi par des véhicules suspects. Alors il a prévenu la police et la police a réagi. Plusieurs voitures de la BAC sont affectées à sa protection et les policiers, lourdement armés, attendent patiemment aux abords du casino. Faute d'une enquête de l'IGPN aboutie, faute d'un procès, jamais la lumière ne sera faite sur cette mystérieuse nuit du 16 juillet 2010 au casino du Riage. Mais on peut s'interroger, pourquoi un tel déploiement policier pour protéger un joueur de casino? Toujours est-il que c'est ce soir-là, à 2h du matin, que Karim Boudouda et un complice débarquent dans la salle de jeu, arme au poing. Le lendemain, leur tentative de braquage fait la une des JT.
Depuis quelques semaines, les braquages se multiplient dans la région Rhône-Alpes. La nuit dernière, c'est le casino du Riage-les-Bains qui a été pris pour cible par deux jeunes malfaiteurs. Alors qu'ils prenaient la fuite, ils ont été pris en chasse par des voitures de police et de gendarmerie. Il y a eu un échange de tirs. L'un d'entre eux est mort, l'autre court toujours.
On dégage, casse-toi !
Karim Boudouda est mort au pied des immeubles qui l'ont vu grandir, abattu par les policiers. Alors, dans la cité de l'Arlequin, la colère monte. Les nuits suivantes, des voitures s'embrasent, des vitrines de magasins sont fracassées, la police tente d'intervenir, mais l'Arlequin peut se transformer en une véritable forteresse. Des fenêtres, quelques tireurs embusqués visent les policiers comme dans une citadelle assiégée.
Scène de guérilla urbaine hier soir dans le quartier de la Villeneuve. Selon les policiers, la violence des casseurs est montée d'un cran.
Nous avons vu, clairement vu, un individu qui a épaulé un fusil et qui nous a tiré dessus.
Le quartier est aujourd'hui sous haute surveillance. Difficile d'y pénétrer. Pour le ministre de l'Intérieur venu soutenir ses troupes, pas question de laisser se reproduire les affrontements de la veille.
Nous allons réagir vite.
À Paris, dans les couloirs de l'Élysée, on ne manque pas une miette de ce qui se passe à Grenoble. En ce mois de juillet 2010, tout le monde pense aux vacances, mais la cadence imposée par le président est infernale. Parmi la horde de conseillers en tout genre, Maxime Tandonnet, docteur S immigration et sécurité, est pour le moins sous pression. Non seulement il est épuisé par les innombrables dossiers et discours qu'on lui demande chaque semaine pour réagir aux moindres faits divers, mais il se sent de plus en plus menacé à son poste. À l'heure de la popote, comme il le rapporte lui-même dans son journal quotidien, il s'emporte quand son collègue évoque ce qui se passe à Grenoble. Scène de vie quotidienne à la cantine de l'Élysée, sous l'ère Sarkozy.
On ne peut plus continuer ainsi. Il faut faire quelque chose, bouleverser le système pour durcir la répression de la criminalité.
Hola, tu veux sortir de l'état de droit?
On en est déjà sorti depuis que les forces de l'ordre ne peuvent plus rentrer dans certains quartiers.
Mais qu'est-ce que tu proposes concrètement?
Des peines planchers, pour les violences aux personnes par exemple.
Mais ça serait inconstitutionnel. On ne peut pas bafouer la Constitution, tu le sais très bien.
Franchement, crois-tu qu'elle n'ait pas bafoué la Constitution quand dans certains quartiers, les personnes âgées, les femmes seules, les enfants ne peuvent plus sortir de chez eux sans se faire agresser et racketter?
Je sais.
Oui, Maxime Tandonnet le sait. Les événements de Grenoble sont une occasion immanquable pour le président de se fendre d'une énième sortie sur la sécurité et l'immigration. Et le conseiller va avoir beaucoup de travail. Pour bien comprendre le climat tendu qui règne alors dans les arcanes du pouvoir, il faut remonter au début de cette année 2010, alors que l'exécutif est empêtré dans un débat nébuleux qu'il a lui-même initié. Cela s'est passé en février. Voilà plusieurs mois que le grand débat sur l'identité nationale occupe les médias. Qu'est-ce que être français? Quels sont les socles de notre identité? La Marseille, la Marseillaise, le drapeau, la laïcité? Comble de la modernité, un site internet a été lancé par le ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale, Éric Besson, pour recueillir les doléances et les propositions des Français autour de ces questions. Un séminaire gouvernemental doit en tirer des conclusions dans le courant du mois. À gauche, on dénonce au mieux une pathétique manœuvre pour attirer les voix du Front National en vue des élections régionales et au pire, une vraie dérive identitaire. Le 4 février, le président défend la tenue de ce débat sur le plateau de TF1.
Mais bien sûr que c'est un débat qui préoccupe les Français. Les Français se demandent, mais les Français sont des gens généreux, ouverts. Mais les Français veulent une logique de droit et de devoir. C'est comme dans un couple, quand on ne se parle pas. Quand on ne se dit plus rien, un jour on se réveille, 10 ans après, c'est la catastrophe. Dans une nation, quand on ne réfléchit pas ensemble, à ce qu'on veut faire ensemble, à quelles sont les valeurs qu'on veut porter. Alors si on n'a plus rien à dire, on n'en débat pas. Ben nous, nous avons des choses à dire et je pense que ce débat se passe tout à fait dignement et qu'il est utile, profondément utile, dans la situation de crise que nous avons connue.
Le lendemain, dans le salon vert qui jouxte le bureau de Nicolas Sarkozy, où sont réunis quelques ministres et conseillers du président, dont Maxime Tandonnet, le ton est très différent. Sarkozy est furibard. J'ai voulu vous voir de toute urgence. On ne peut pas faire un séminaire des ministres pour annoncer seulement qu'on va apprendre la Marseillaise en classe. Trouvez-moi autre chose. Et les ministres d'improviser quelques mesures. Un service civique pour tous, propose Éric Besson. Impossible à mettre en œuvre, rétorque Claude Guéant, le secrétaire de l'Élysée qu'on appelle ici le cardinal, à un côté Mazarin. Le drapeau tricolore dans chaque classe, un défilé de civils le 14 juillet. Grotesque, peste le président. Des statistiques démographiques par ethnie, là Sarkozy réagit positivement. Ce serait intéressant effectivement de connaître le nombre de Français d'origine africaine, maghrébine, asiatique. Mais il est interrompu par Henri Guenot, son plus proche conseiller, qui lui a des principes et qui élève le débat. « Non, dit-il, ce serait la mort de l'esprit républicain. » On s'accorde finalement sur la création d'un carnet du jeune citoyen. Oui, un peu d'éducation civique ne fera pas de mal, conclut le président. Genre, être français, ça se mérite. La semaine suivante, séminaire gouvernemental tourne au théâtre de Grand Guignol avec des morceaux choisis, relayés dans le canard enchaîné. Chante, chante, aurait réclamé en chœur les ministres Jack Lang, qui proposait d'ériger Douce France de Charles Trenet en symbole de l'identité nationale. Le sulfureux débat, voulu par le président, est bien vite enterré par ses ministres. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, finalement. En tout cas, si la séquence est pensée comme une rampe de lancement pour les régionales, elle est un flop retentissant. Le 20 mars 2010, en effet, la droite est balayée par les urnes. Pour Nicolas Sarkozy, 2 ans avant les présidentielles, la présidentielle, l'heure est grave.
C'est à la une ce matin, évidemment, les régionales, matinales spéciales sur France Inter et journal presque exclusivement consacré à ce second tour, avec donc la victoire sans appel de la gauche. Elle l'emporte dans 21 des 22 régions de métropole, près de 54% des suffrages, du jamais vu depuis 1981. Même François Fillon ne peut que reconnaître le succès adverse.
Le résultat de ce soir confirme le succès des listes de gauche. Et cela constitue une déception pour la majorité.
Après la débâcle électorale, l'exécutif doit se relever. Un homme semble avoir particulièrement l'oreille du président dans cette période. Patrick Buisson, ancien de l'Action française, parti historique de l'extrême droite, directeur de la chaîne Histoire et conseiller du président depuis la campagne de 2007. La ligne dure du candidat Sarkozy, c'est lui. Le virage à droite, toute pour aller gratter des voix du FN, c'est lui. Le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, la chasse aux assistés, l'obsession sécuritaire, c'est la ligne Buisson, l'éminence grise, très grise, qui a rapporté gros électoralement et qui est payée grassement en contrepartie. Sa société, Publifact, spécialisée en enquête d'opinion et privilégiée par les cabinets de l'Élysée, qui paye des millions pour la commande d'innombrables sondages. Dans cette période de grande turbulence qu'est le printemps 2010, Nicolas Sarkozy va ainsi se cramponner au rôle qu'il connaît le mieux, qu'il a incarné sous Jacques Chirac, et qu'il sait le plus spectaculaire dans l'opinion, ministre de l'Intérieur.
L'opération est restée secrète jusqu'à ce matin. Nicolas Sarkozy en visite surprise au dépôt de bus de Tremblay en France. Le chef de l'État veut montrer qu'il est à l'écoute des conducteurs caillassés et agressés depuis plusieurs jours. Plus ministre de l'Intérieur que jamais, Nicolas Sarkozy profite de cette visite en Seine-Saint-Denis pour retrouver les vertus du face-à-face direct. Au pied du bus, avec les conducteurs qui exercent le droit de retrait, il négocie.
Mais si vous ne reprenez pas le travail, ceux qui gagnent, c'est les voyous. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous impressionner.
Des chauffeurs de bus agressés par une bande de voyous à Tremblay en France, une agression à l'arme blanche dans un lycée, une femme arrêtée au volant alors qu'elle porte une burqa. Voilà les chauffeurs de bus invités à l'Élysée. Et des déplacements présidentiels sont organisés un peu partout, assortis de grandes annonces. Vidéosurveillance aux arrêts de bus et dans les lycées, création d'internats pour les perturbateurs scolaires, suspension des allocations familiales pour les parents d'enfants absentéistes, et une loi en préparation pour interdire la burqa. En Seine-Saint-Denis, un nouveau préfet, un ancien flic, est nommé pour reconquérir le territoire. Dans les salons de l'Élysée, les réunions sécurité s'enchaînent. Dans son journal, Maxime Tandonnet fait part de son épuisement. 23 avril, nouvelle réunion police, la troisième en 15 jours. À chaque fois, je me tape le dossier. 17 mai, nouvelle séance sur la sécurité présidée par le chef de l'État. Ces réunions sont-elles vraiment indispensables? Il ne cesse de proclamer qu'il ne veut pas redevenir ministre de l'Intérieur, mais que fait-il d'autre en ce moment? Au milieu de ses conseillers, Nicolas Sarkozy est tour à tour compatissant, voire badin, puis soudainement anxieux, obsédé par les chiffres de la délinquance et ultra-colérique. Et c'est ainsi qu'un beau jour d'avril, un nouveau sujet mis sur la table, comme ça, comme s'il venait de traverser l'esprit du président, dont Tandonnet rapporte les propos.
Je voudrais qu'on fasse le point sur un sujet qui préoccupe de plus en plus les gens, celui des campements illégaux de nomades. Mettez vos juristes là-dessus, que peut-on faire? Pensez au pauvre gars qui conduit sa voiture, se fait taper dessus parce qu'il a été surpris par un radar à 2 km/h de trop, et qui voit surgir des installations sauvages un peu partout sans que personne ne réagisse. Il faut absolument faire quelque chose.
Dès lors, les Roms deviennent l'obsession de l'Élysée, car c'est bien d'eux dont le président parle. Cette population nomade, qui profitant de l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne, a fui ces pays où elle était discriminée pour se réfugier aux abords de nos villes, recluse dans des camps de fortune sans accès à l'emploi ni protection sociale. Eux, environ 15 000 personnes en France, qui vont subir dès lors une politique d'exclusion minutieuse et sans concession. Oui, eux, et non les autres populations de gens du voyage habitant le territoire français. Il est important de le préciser car, comme nous allons le voir, à cette époque à l'Élysée, on n'est pas à une confusion près.
J'entends le bruit qui court, boy. J'entends le bruit qui court, boy. Un écho dans un coupe-gorge. Cours dans la nuit. J'entends le bruit qui court, boy. J'entends le bruit qui court, boy. Un écho dans un coupe-gorge. Cours dans la nuit. Pendant que des faussaires veulent enfoncer l'enfant seul qui braque la diligence. Chez tous les gens intelligents, ça rit jaune de voir les dirigeants s'ériger en défenseurs de la morale. Alors que dirigeante, pour nos sœurs, c'est un mot rare. Mon reflet dans ce miroir, rempli par l'orage, me rappelle qu'on sera tout seul quand on mourra. Même ces patrons qui te licencient quand t'as des enfants pour leur avarice, ou te disent qu'il faut céder à leurs avances pour en avoir une. Contester le pouvoir, on vous ruine, ils sont peinards quand d'autres meurent. Peu de justice pénale, y'a qu'au tribunal que j'entends votre honneur. J'entends le bruit qui court, boy. J'entends le bruit qui court, boy. Un écho dans un coupe-gorge. Cours dans la nuit. J'entends le bruit qui court, boy. J'entends le bruit qui court, boy. Un écho dans un coupe-gorge. Cours dans la nuit.
Dans les bras d'une autre fille, j'envie l'amour que j'ai happé, je me noie, ça va trop vite comme la mort en girafe pour un jeune noir. Ça commence dès la garderie, cet écart terrible, ça va très vite comme la venue des flics dans les quartiers riches. Grandir avec de l'or en barre, hériter de vos remparts, et les cris des écoles privées deviennent vos remparts. Alors ouais, on peut tous s'en sortir, c'est vrai, mais faut quand même faire beaucoup plus d'efforts en bas, en bas. Tu sais ce qu'ils diront si jamais tu leur en parles. T'inquiète pas, va, quand y'a du chiffre en jeu, on devient fort en maths. Les nouvelles feront mal, ça crie au tel. Encore une graine pleine de beauté que la rue enterre. T'as voulu arracher la douleur, devenir insensible, mais il te reste encore dans le cœur un peu de cette bonté que ta cruauté. Faut pas qu'on s'atrophie, bilan catastrophique, car souvent tout passe trop vite à part les souffrances. L'homme était bon avant qu'il souffre, mon reflet dans une flaque déformée par le vent qui souffle.
Aujourd'hui, le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble en 2010.
France Inter, affaires sensibles.
Été 2010 donc, la situation se dégrade un peu plus. En juin, deux affaires éclaboussent le pouvoir. L'affaire Bettencourt et l'affaire Karachi, impliquant directement le président Sarkozy. Celui-ci est au plus bas dans les sondages, plafonnant à 30% d'opinion favorable. La réforme sur les retraites, celle qui nous fit passer de 60 à 62 ans, est annoncée le 16 juin et promet des mois de grande turbulence au pouvoir. Résonance. Mais Nicolas Sarkozy ne change pas de cap. Le 24 juin, il est sur le pied de guerre. Dans la nuit, et dans le plus grand secret, est organisé une sortie présidentielle en Seine-Saint-Denis. Après un passage obligé chez les chauffeurs de bus de Tremblay, quelques amabilités échangées sur le fiasco des Bleus qui se sont ridiculisés en Coupe du Monde, on va virer le responsable, promet Sarkozy, un détour par la gare de Saint-Denis, puis le cortège présidentiel poursuit son voyage au bout de la nuit jusqu'au pied de la cité des 4000 à La Courneuve. Là où justement, quelques années plus tôt, Sarkozy avait annoncé la couleur et le style, promettant de passer la racaille au Karcher. Il se trouve que la nuit, bien avancée, est très calme. Seuls quelques badauds traînent encore. Alors le président s'approche des jeunes, les uns après les autres, et leur dit « Vous habitez dans la cité? Vous ne voulez pas me parler? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Donnez-moi votre nom. Nous allons vous trouver du travail. » Mais des halls d'immeubles, un murmure inquiétant monte, faisant frémir le service de sécurité, et surtout Maxime Tandonnet, qui rapporte cette scène ubuesque dans son carnet. Les sarco-sarco redoublent d'intensité, lugubres, comme venus des profondeurs d'un abîme. Des ombres furtives s'approchent et disparaissent. Les policiers commencent à paniquer. Et le président, imperturbable, dit à un jeune à qui il a proposé un peu plus tôt une aide pour trouver une formation « Alors, vous avez réfléchi ?»« Oui, je vais aller à la mission locale. J'ai plus confiance, rétorque le Courneuvien, goguenard. » Bon, les conseillers de l'Élysée pensent le président rassasié après cette nuit en Seine-Saint-Denis. C'est sans compter sur son insatiable appétit, justement, lui qui veut de nouvelles sorties sécurité à Paris, puis en province. Eh bien, la mort du braqueur de Grenoble et les violences urbaines qui s'ensuivent le week-end du 18 juillet offrent un cadre idéal.
C'est une descente violente au cœur de Saint-Aignan, une commune de 3400 habitants. Une cinquantaine de vandales, la plupart cagoulés et armés de haches et de barres de fer. Pendant près de deux heures, ils détruisent les arbres, s'attaquent à la gendarmerie et dévalisent la pâtisserie. Un déferlement de violence qui sème la panique chez les habitants.
Qu'un écho qu'il fasse du mal. Je vous inquiétez pas, un homme, c'est pareil, j'habite juste en face. Pourquoi qu'ils ont fait ça? On n'a rien fait.
La plupart sont des gens du voyage qui laissent éclater leur colère, disent-ils, pour protester contre la mort vendredi d'un de leurs camarades. Il a été tué par un gendarme alors qu'il tentait, selon le procureur, de forcer un contrôle tenu par deux militaires.
Des arbres tronçonnés, une gendarmerie vandalisée, une pâtisserie dévalisée. En ce 18 juillet 2010, ces images improbables tournent en boucle dans les médias. Et puis il y a la petite commune de Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher qui est en proie à une vendetta pour le moins spectaculaire. La mort suspecte de Luigi Duquenet, 22 ans, a réveillé la colère des gens du voyage qui ont ravagé le village du coin. Ces images spectaculaires s'additionnent à celles des émeutes grenobloises. Alors Claude Guéant appelle immédiatement Maxime Tandonnet. Le président veut un communiqué de presse pour le soir même. Le conseiller prend sa plume et couche sur le papier quelques éléments de langage qui sont depuis quelques mois devenus une ritournelle. Des événements d'une extrême gravité, l'autorité de la loi doit être respectée, etc., etc. Mais le soir, il voit paraître un communiqué modifié dans les grandes largeurs. Une visite présidentielle à Grenoble y est annoncée pour installer un nouveau préfet, un ancien flic à nouveau, pour ramener l'ordre. Mais surtout, une phrase fait frémir Tandonnet. Les événements dans le Loir-et-Cher soulignent les problèmes que posent les comportements de certains parmi les gens du voyage et les Roms. Voilà. Les Roms, qui n'avaient rien à demander. Les voilà mêlés à l'affaire de Saint-Aignan. La réaction ne s'est fait pas attendre.
Après les violences urbaines observées à Saint-Aignan, Nicolas Sarkozy a annoncé hier une réunion sur les comportements de certains membres parmi les gens du voyage et les Roms. Le chef de l'État s'est attiré les foudres de la Ligue des droits de l'homme qui dénonce, je cite, une stigmatisation raciste. Il faut savoir que les gens du voyage est une expression administrative qui concerne 2 à 300 000 personnes en France. Des populations nomades, mais de plus en plus souvent sédentarisées, et pour la plupart de nationalité française, contrairement aux Roms, qui sont eux essentiellement des Tziganes d'origine roumaine.
Tandonnet écrit dans son carnet, on est en train de déraper, un vent de panique souffle en ce moment sur le palais. Mais le voilà bien vite de retour à son scriptorium pour rédiger un premier jet du discours que tiendra le président à Grenoble le 30 juillet. Son brouillon doit être ensuite relu par différents conseillers, dont Cédric Goubet, le secrétaire particulier du président. Deux jours avant la tenue du discours, réunion des plumes pour y mettre un point final.
On l'aura compris, Tandonnet n'est pas le plus modéré sur les questions de sécurité et d'immigration. Mais quand il entend Cédric Goubet lire la nouvelle version du discours, il n'en croit pas ses oreilles. Dans celle-ci, le lien entre délinquance et immigration est explicitement formulé. Et en découle toute une série de mesures comme autant d'annonces choc. Jamais la communication présidentielle n'était allée aussi loin. Tandonnet s'oppose, violemment. Rien n'est applicable. Cela va déclencher des polémiques stériles. Tout n'est que gesticulation inutile, de l'esbrouffe, du cinéma. Il invoque même le racisme. Face à lui, Goubet, visage émacié, tout juste remis d'un burn-out, explose. Et voilà les deux conseillers qui s'écharpent pour défendre leur position. « Si on perd en 2012, ce sera de ta faute », balance le secrétaire particulier au conseiller intérieur, l'insulte suprême. Mais les guéguerres de courtisans ne changeront rien. Le discours restera en l'état. Alors, initiative personnelle du petit conseiller ou directive venue de plus haut? Qui est vraiment derrière ces nouvelles lignes introduites dans le discours de Grenoble? Buisson, Guéant, Sarkozy lui-même? Nous ne le saurons probablement jamais. À ce jour, seuls les deux conseillers sont crédités comme co-rédacteurs. Le jour même, la grande réunion sur les Roms est tenue dans le Salon Vert. Un cap est fixé, 200 évacuations de camps en 3 mois. Satisfait, Nicolas Sarkozy peut changer de sujet. A-t-on prévu une nouvelle réunion sur l'immigration? Moi je me demande s'il ne faut pas totalement chambouler notre politique sur les visas et réduire drastiquement les entrées. 30 juillet 2010, Grenoble. Le grand jour.
Madame le garde des Sceaux, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet, Monsieur le maire de Grenoble, Monsieur le président du Conseil général, Grenoble vient de connaître une flambée de violence sans précédent qui a profondément choqué nos concitoyens.
Les conseillers regardent inquiet le président monter à la tribune et commencer son discours. Tandonnet souffle à un collègue. J'espère qu'il ne va pas prononcer les passages explosifs du discours. Ah, tu te fais des illusions, réplique l'autre. Le président s'exprime pendant 33 minutes. Les 10 premières sont consacrées aux événements de Grenoble. Dans les 20 suivantes, il annonce sa politique de réforme pour la sécurité et l'immigration. Florilège.
L'instauration d'une peine de prison incompressible de 30 ans pour les assassins de policiers ou de gendarmes sera discuté au Parlement dès la rentrée. Les peines planchers, qui fonctionnent bien, mais qui ne s'appliquent qu'aux multirécidivistes, seront désormais étendues à toutes les formes de violence aggravées. Nous allons réévaluer les motifs pouvant donner lieu à la déchéance de la nationalité française. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie. La question de la responsabilité des parents est clairement posée. Je souhaite que la responsabilité des parents soit mise en cause lorsque des mineurs commettent des infractions. Les parents, manifestement négligents, pourront voir leur responsabilité engagée sur le plan pénal. De même, la question des allocations familiales. Quand une famille ne signale pas que son enfant ne va plus à l'école, est-ce que cette famille peut continuer à aller au bureau la caisse d'allocation familiale pour percevoir les allocations comme s'il ne s'était rien passé?
Peine plancher, chantage aux allocations familiales, à responsabilité pénale des parents, déchéance de nationalité. Sarkozy jette de nombreux pavés dans la mare et ouvre la boîte de Pandore. Mais son discours ne serait que très habituel finalement, sans son célèbre couplet sur l'immigration et les Roms.
Enfin, il faut le reconnaître et je me dois de le dire, nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulées qui ont abouti à un échec de l'intégration. La règle générale est claire, les clandestins doivent être reconduits dans leur pays. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. Dans les 3 mois, la moitié de ces implantations sauvages auront disparu du territoire français. Je vous remercie de votre attention.
Le président est à peine remonté dans son Falcon direction Paris que la polémique éclate. Pendant plusieurs jours, la presse et l'opposition se déchaînent. Propos ignobles, populisme, xénophobie, déchéance morale, refrain des années 30. À l'Élysée, on est d'abord satisfait de l'effet produit, mais pas tout à fait conscient du côté inapplicable de la plupart des mesures annoncées par le président. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est ce que les Français en ont pensé. Le 5 août, un sondage du Figaro est repris dans tous les JT. 70% des sondés seraient favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux commettant un meurtre de policier ou de gendarme. Et 79% sont pour les démantèlements des camps de Roms. Malgré les critiques qui viennent de tous bords, le discours de Grenoble semble avoir été bien reçu par l'opinion. Un jour d'août, Maxime Tandonnet reçoit un appel. C'est le président, en ligne directe. J'ai une entière confiance en vous, Maxime. Merci pour tout ce que vous avez fait. Le conseiller ne peut réprimer un sourire de satisfaction, certes, un peu gêné. Il n'a ni écrit ni approuvé le discours pour lequel il est à présent porté au nu par le président. Le jour même, son nom sort dans la presse. Cité comme l'auteur du discours, les journalistes tiennent leur coupable. Toujours est-il que le pouvoir compte bien surfer sur le sondage du Figaro et accélérer son action. Une circulaire du ministère de l'Intérieur est transmise à toutes les préfectures de France. 300 campements ou implantations illicites devront avoir été évacués d'ici 3 mois, en priorité ceux des Roms. La deuxième partie de la phrase, visant explicitement une ethnie particulière, est reprise dans tous les médias. Durant l'été, pas un jour sans qu'un reportage sur l'évacuation d'un camp de Roms ne passe à la télé. À l'étranger, nos voisins observent d'un œil effaré ce qui se passe dans le pays des droits de l'homme. L'Église catholique, par la voix de son pape, Benoît XVI d'abord, monte au credo pour soutenir les Roms de l'Hexagone. Puis c'est l'Union européenne qui accuse, par la voix de sa commissaire à la justice et aux droits fondamentaux, Viviane Reding. Elle y va sans détour.
Je suis très en colère. Il s'agit des valeurs fondamentales sur lesquelles, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a construit notre Europe. Plus de déportations en masse. On n'expulse pas un groupe ethnique ou un groupe racial, demain peut-être un groupe religieux ou que sais-je, ça ne va pas. Stop.
Au sortir de cet été brûlant, la France est sous le coup d'une sanction européenne. Les expulsions de Roms sont condamnées par l'ensemble de la communauté internationale. Les fantômes de Vichy sont même quelquefois évoqués. Les banlieues et les populations d'origine immigrée sont stigmatisées comme jamais. La ville de Grenoble, par exemple, répondant bientôt au sobriquet de Chicago-sur-Isère, a été durablement marquée par cette étiquette d'insécurité. Quant aux mesures annoncées par Nicolas Sarkozy, elles n'entreront bien sûr jamais en vigueur, toujours bloquées pour X raisons parlementaires ou constitutionnelles. Le président, lui, stagne à 26% dans les sondages. Mais devant ses conseillers lessivés et quelques parlementaires tout acquis à sa cause, il jubile en cette rentrée de septembre. Et il dit « Nous avons gagné la bataille de l'idéologie ». Vous voyez le discours de Grenoble ? Je l'ai prononcé il y a plus d'un mois et je vis toujours dessus. Avez-vous déjà vu un homme politique prononcer un discours qui scande l'actualité 6 mois après avoir été prononcé ? Nous sommes alors le 8 septembre 2010 et ce jour-là, la réforme des retraites entre en débat au Parlement. Le président de la République y apparaît souriant et sûr de son coup face à la levée de bouclier qui l'attend, le véritable tournant de son quinquennat. Non, le pays ne sera pas bloqué. Sa réforme passera. Vous vous rendez compte que je suis en train de supprimer la retraite à 60 ans, pavane-t-il ? Moi, on me laisse gouverner le pays. Et si les choses se compliquent, eh bien, on organisera une nouvelle réunion sécurité.
Les bruits sourds qui nous parviennent de l'appartement du troisième empêchent l'immeuble de dormir. On m'a chargé de vous écrire. Ces gens-là sont différents. Je ne reconnais pas leur accent. Que va devenir notre France si l'on ne peut pas dire ce qu'on pense? J'entends déjà sur la plaine. Français. Je me comprends, comprenez-moi. De mon temps, ce n'était pas comme ça. On réglait ce genre de problème à coups de matraque et de chaîne. Ils voudraient s'asseoir sur nos souches, nous voler le pain de la bouche. Ce qui cause mon tourment, que vont-ils faire à mes enfants? J'entends déjà sur la plaine le vol noir de verre. Toujours les corbeaux reviennent. Entendez-vous sur la plaine?
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy en 2010, on en parle avec notre invité Edoui Plenel. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de la publication de Mediapart, vous avez été l'un de ceux qui ont le plus vivement réagi à ce discours de Grenoble. Vous vous souvenez de ce que vous avez écrit en substance à l'époque ?
Oui, je l'ai même apporté, je l'ai sous les yeux.
Ah bah très bien, c'est mieux que la substance, on l'a entièrement.
Le titre, c'est « Sarkozy contre la République, un président hors la loi ». Et dans l'article, j'explique que le président Nicolas Sarkozy, par ce discours de Grenoble, est devenu un délinquant constitutionnel. Je m'explique. Nous avons une constitution, et elle est toujours là, qui dit que la fonction présidentielle n'appartient pas à celui qui l'occupe, mais qu'elle est la gardienne, je cite, « le président de la République veille au respect de la constitution ». Or, que dit notre constitution en son article premier ? Celui qui dit que notre République est laïque, indivisible, démocratique et sociale. Il dit « la République assure l'égalité devant la loi » de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Cette constitution, et par ailleurs, se réclame non seulement de la Déclaration des droits de l'homme, nous naissons tous libres et égaux en droit et en dignité, a ajouté la Déclaration universelle, mais elle ajoute aussi, et c'est pas un hasard, le préambule de la Constitution de 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, après les catastrophes des idéologies de l'inégalité, de l'exclusion, du racisme, de la xénophobie. Eh bien, ce préambule dit que tous les humains, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possèdent des droits inaliénables et sacrés. C'est ce rappel qui m'a permis d'écrire que le président de la République, Nicolas Sarkozy, en 2010, en disant que la nationalité doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère, rompait la Constitution dont il est le gardien.
Donc l'affaire était grave.
C'est très très grave et c'est même, je vous remercie vraiment en tant que citoyen, de revisiter ce moment. Car c'est sans doute la scène inaugurale, la scène primitive de ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir finalement, de ces partisans de l'inégalité naturelle, ce qu'on appelle l'extrême droite, qui, au-delà, pour moi, des expressions partisanes, c'est celles et ceux, et ils ont le droit dans leur tête de le penser, qui pensent qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des religions supérieures à d'autres, des croyances, des apparences, des identités. Ils ont le droit de le penser.
Mais ça veut dire que ce discours de Nicolas Sarkozy, il représente une étape. Il représente une étape importante
derrière ça. Il a déverrouillé. Il a déverrouillé la porte.
C'est plus que ça. C'est plus
qu'une étape. Il a déverrouillé une porte dont toutes les forces républicaines étaient les gardiens. Cela fait bientôt 13 ans. Et depuis 13 ans, il suffit de brancher nos radios, nos télévisions. Aujourd'hui, ce discours de l'inégalité naturelle a pignon sur rue. Ce n'est pas possible dans une démocratie, car c'est le pilier de notre démocratie. Le pilier de notre démocratie, ce qui nous a permis de conquérir des droits d'expression, des droits sociaux, des droits pour les femmes, des droits pour tous, qui que nous soyons, de quelque origine, de quelque condition que nous soyons, de quelque apparence, de quelque sexe, de quelque genre, c'est cette idée de l'égalité. Si l'on ouvre la voie, si l'on fait cette brèche au nom de l'origine, en disant « parce que vous êtes de telle origine, vous n'aurez pas les mêmes droits ».
Le verre est dans le fruit.
Et c'est une catastrophe, et la catastrophe, elle a duré. Quelques années après, l'un de ceux qui s'est dressé contre cela, François Hollande, à l'époque en 2010, dans la panique des attentats de 2015, a lui-même eu recours à cette arme de la déchéance de nationalité, qui est la bombe atomique du droit de la nationalité.
Qui crée un malaise, de toute façon, que ce soit version Sarkozy ou Hollande, ça crée un malaise, mais d'emblée.
Le malaise, bien sûr, nous l'avons tous vécu, il s'est exprimé, mais le problème, c'est que la porte ne s'est pas refermée. On joue avec ça. Et on joue avec une logique du bouc émissaire. Encore une fois, les catastrophes viennent de là. Elles ne viennent pas d'une décision d'en haut, les catastrophes démocratiques. Elles viennent d'un état d'esprit, d'un état du débat public.
C'est ce que vous dites dans votre livre qui sort après-demain. Je crois que ça correspond à ce que vous dites. Or, c'est ainsi qu'adviennent les fascismes, quels qu'en soient les avatars, selon les circonstances, les pays ou les époques, non par une fatalité qui découlerait du contexte économique et social, mais par une accoutumance idéologique à leur passion mortifère.
Bien sûr.
Ça renvoie à ça.
Bien sûr. C'est quand on ne peut pas. On a des divergences, on a des débats, on a des problèmes sécuritaires, on a des problèmes sociaux, on a toutes sortes de questions. Mais ce qui fait notre socle commun, quelles que soient nos sensibilités, depuis que nous avons découvert en Europe que ces idéologies, ces mots, pouvaient produire des crimes, des crimes contre l'humanité, ce que rappelait la commissaire européenne que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire expulser de l'humanité des personnes à raison de leur origine, à raison de l'étiquette qu'on leur met, du préjugé, du stigmate que l'on met sur elles. À partir du moment où l'on accepte cela dans le débat public, en se réclamant normalement de familles de gauche ou de droite républicaine, eh bien, on met le loup dans la bergerie qui va manger tous les moutons.
Et concernant la droite, puisque jusqu'à preuve du contraire, Nicolas Sarkozy appartient au camp de droite, est-ce que vous avez le sentiment que la frontière est devenue de plus en plus poreuse entre la droite et l'extrême droite, et que le discours de Grenoble en est une illustration ? Est-ce que c'est lié ?
Bien sûr. Bien sûr que cette frontière est poreuse. D'ailleurs, tous les protagonistes de l'époque sont toujours dans ce paysage. Nicolas Sarkozy est toujours un conseiller officieux de l'actuel président de la République. Il n'a jamais revenu sur cette attitude qu'il a eue à l'époque. Et je voudrais souligner, parce que vous rappeliez tout le contexte de cette diversion xénophobe, c'était l'affaire Bettencourt, qui a été d'une très très grande virulence et qui était portée, vous le savez, par Mediapart.
Vous la connaissez bien, oui.
Et il y a eu une grande panique, car cette affaire, quand même, concernait le camp présidentiel, concernait le financement de sa campagne, concernait
on l'a rappelé, effectivement.
Le magistrat qui était à l'Élysée était concerné, et ainsi de suite. Et il y a quelque chose de très tragique dans tout cela. C'est que ces personnes qui brandissent ces questions de sécurité pour dire il faut désigner les étrangers, il faut désigner les Roms, il faut désigner la partie de nous-mêmes qui vient d'ailleurs, mais qui est française, comme vous, comme moi, eh bien ces personnes, ce sont des gens qui sont soupçonnés d'être des malfaiteurs. Monsieur Sarkozy, aujourd'hui, est multi-mis en examen dans une affaire que Mediapart a beaucoup chroniquée et portée, qui est l'affaire libyenne, et il est même mise en examen aujourd'hui pour association de malfaiteurs. Monsieur Hortefeux, qui est le ministre de l'Intérieur, à cette époque, il était poursuivi et même condamné pour des insultes liées à l'origine, visant notamment les musulmans, et lui aussi mis en examen dans ce dossier. Monsieur Guéant, le cardinal dont vous parliez tout à l'heure, il est aussi mis en examen. Donc il y a quelque chose d'apprenti sorcier chez ces gens. Je ne les juge pas moralement, je dis juste que ces gens, pour se sauver politiquement, pour se sauver au pouvoir, sont prêts à mettre le feu à la République, à ses principes, à ses vertus. Là où Jacques Chirac, quand il était mis en cause dans ses affaires, disait « Oh, ça fait pchit, oh, c'est abracadabrantesque mmh. !» Donc, c'était, j'allais dire, à la loyale par rapport à nos révélations. Ce n'était pas virulent, et puis il ne désignait pas, à ce moment-là, des boucs émissaires pour s'en sortir lui-même. Et donc, ce dont nous parlons aujourd'hui même, en 2023, cette scène de 2010, eh bien, c'est le début de ce qui peut être, dans 4 ans, une immense catastrophe démocratique.
Ouais, donc une date qui fait date. En gros, on va se retrouver dans 3 minutes de Louis Pedel après avoir écouté Young Fathers, I Saw.
I want your shield, I want your weapon, give me that bulletproof vest, and don't forget I'm not susceptible to your nonsense, I'm a winner. Not falling for your charms, not crashing to your arms, handful of coins, and a bold of
une considération plutôt politique et d'organisation politique du temps de Nicolas Sarkozy, ce discours de Grenoble, la promotion de ces idées-là, c'est la ligne Buisson, on peut le dire.
C'est une ligne qui a contaminé, au-delà de Patrick Buisson, qui vient de l'extrême droite et qui l'est profondément resté, il vient de l'Action française. L'Action française, c'est la famille idéologique, intellectuelle, avec y compris des auteurs brillants. Maurras lui-même était un auteur brillant, qui est le laboratoire européen des idéologies d'extrême droite, des idéologies qui peuvent produire aussi des crimes au nom de la hiérarchie des humanités. Et donc, ce courant a totalement infiltré, on le trouve aujourd'hui dans le débat public, on le trouve dans des chaînes de télévision, dans des chaînes de radio, dans des journaux. Il y a eu à la dernière campagne présidentielle un candidat qui a dit tout cela publiquement. Il s'appelle Éric Zemmour. Il venait du service public de télévision. Il venait de la gauche. De la gauche nationale républicaine, du chevènementisme. Et il est toujours, d'ailleurs, il était plutôt une plume du journal de la droite française, Le Figaro. Et ils ont franchi un pas. Vous savez, la même année 2010, l'un de ces figures de ces intellectuels, c'est des postures, on croit que c'est des postures, mais les mots, nous l'avons appris sur ce continent, peuvent se transformer en balles. Quelqu'un, la même année 2010, associe deux mots simples. C'est l'idéologie meurtrière de nos jours. Le grand remplacement. Ces deux mots. Renaud Camus invente cette formule, popularisé par Éric Zemmour, adoubé par Michel Houellebecq, qui est l'écrivain le plus traduit et aujourd'hui parfois le plus connu à l'étranger, cette idée que notre peuple serait remplacé par un autre, qu'une partie de notre peuple voudrait en exclure une autre. C'est une idéologie terrifiante. C'est une idéologie qui est un appel à ce qu'une partie de notre peuple s'efface.
C'est fantasmatique en plus.
Oui, c'est un fantasme total. Les spécialistes de l'immigration le raconteront. François Héran, qui tient la chaire au Collège de France, le documente encore dans des livres récents. Tout ça est bien sûr est de l'ordre du fantasme, mais on instille quelque chose. On instille ce fantasme. On instille cette déréalisation. Et on l'instille dans la tête de personnes qui, de bonne foi, vont se dire, mais au fond, toutes les petites incivilités, tous mes petits problèmes viennent de là. Et ils viennent de là du fait qu'il y a une partie de gens, eh bien, que l'on doit chasser ou que l'on doit d'abord invisibiliser, c'est-à-dire qu'ils ne doivent plus avoir l'air musulmans, ils ne doivent plus avoir l'air d'ailleurs, ils ne doivent plus avoir l'air différents. Et puis, s'ils ne comprennent pas qu'ils doivent s'effacer, eh bien, nous allons, et ils appellent carrément ça la grande remigration, hein, nous allons les faire partir. Dans le livre que vous citiez, qui sort cette semaine, L'appel à la vigilance, je rappelle tous ces débats, puisqu'il y a eu des alertes en temps et en heure, il y a 30 ans, notamment...
En 93, dans Le Monde. Voilà. Et d'ailleurs, vous rendez hommage à l'un de ses signataires, l'historien
Maurice
Olinder, absolument.
Mais il y avait...
Qui est décédé il y a peu de temps,
voilà,
quelques mois.
Le livre est provoqué par son décès, parce que je voulais rendre hommage à cette histoire où il avait rassemblé un grand résistant, Jean-Pierre Vernant, un grand écrivain, Umberto Eco, et 38 autres grandes personnes qui ont lancé cet appel à la vigilance sur comment les catastrophes, elles ne viennent pas simplement des élections, elles ne viennent pas simplement des actions des partis politiques. La question, et cela concerne notre métier, c'est la question de la qualité du débat public, de ce qu'est-ce qu'un espace public. Est-ce que dans l'espace public, on accepte que des idéologies qui peuvent être meurtrières aient le droit de citer. Que au café du commerce, on dise des préjugés. Que l'on ait dans sa tête ou dans son petit journal militant quelque idéologie comme cela, c'est une chose. Mais qu'on les déballe publiquement et que publiquement on les considère légitimes, eh bien c'est à ce moment-là que l'on s'habitue au pire.
Est-ce que vous exprimez de cette façon dans le livre, la nouveauté n'est pas l'existence de préjugés xénophobes ou d'opinions racistes qui n'ont jamais totalement disparu, pas plus que les actes criminels qui les ont inspirés, notamment dans les années 70, hein, c'est le syndrome Dupont-Lajoie, hein, le film Dupont-Lajoie. L'inédit, c'est leur légitimation dans l'espace, c'est le débat public, ce que vous dites, la circulation des idées et la diffusion des opinions par le détour d'émissions de télé et de radio.
Oui,
donc nous sommes responsables aussi.
Avec toutes ces émissions qui se disent, qui ne sont pas d'information, qui sont des émissions d'opinion. C'est très important parce que votre émission, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revisite des affaires avec des faits. Vous informez. Vous êtes précis sur les dates, sur les mots, sur le contexte, etc. Un débat public démocratique, c'est pas mon opinion contre la tienne. Si c'est mon opinion contre la tienne, c'est rapidement mon préjugé contre le tien, mon identité contre le tien, et c'est au fond la guerre de tous contre tous. Un espace public démocratique, et c'est là où les pouvoirs publics sont actuellement inactifs, je trouve, eh bien, et c'est pour ça qu'on régule l'audiovisuel, et c'est pour ça qu'on veille à des principes, eh bien, c'est celui où nous mettons les informations au cœur du débat. Et il ne suffit pas de venir dire « j'ai le droit de tout dire ». Non, vous n'avez pas le droit de tout dire. Vous n'avez pas le droit de dire ce qui blesse. Vous n'avez pas le droit de dire ce qui est une haine. Vous n'avez pas le droit de dire ce qui est un appel à la discrimination vis-à-vis d'une personne à raison de sa croyance ou de sa couleur de peau. Non, nous n'avons pas le droit de cela. C'est un respect de nous-mêmes. Un peu de tenue, comme dit une chanson... Un peu de Monsieur William, un peu de tenue dans la 5e avenue, c'était Léo Ferré. Ouais. Un peu de tenue. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'il faut, et c'est le sens de ce livre,
votre discours est un appel
à ce que le
vigilance.
Débat public ait voilà. Un peu de tenue.
Et je vous coupe un peu parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais effectivement, ce livre s'appelle L'appel à la vigilance face à l'extrême droite, édition La Découverte dans les librairies à partir de jeudi. Merci infiniment, Edouard Plenel. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Lison Berg.